Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, les élections législatives israéliennes et une première tendance en faveur pour l'instant du grand rival de l'inamovible Benjamin Netanyahou, le général Benny Gantz. Décryptage dès le début de votre journal avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Julien Fautra. Et puis on va revenir ce soir sur ce terrible drame samedi dernier dans le Var où une femme a été assassinée à son domicile par son mari alors que ce dernier avait interdiction d'entrer en contact avec elle et que les gendarmes étaient encore sur place une heure auparavant. Peut-être la toute dernière déclaration de revenus à remplir pour 8 millions de Français. Explication complète et concrète ce soir avec notre service économique et social d'RTL. Le football, les premiers quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce soir. Liverpool, tout va bien face à Porto, 2-0 pour l'instant, c'est la mi-temps. Pour Tottenham et Chelsea, c'est du 0-0. Et en match en retard de Ligue 1, Nîmes a dominé Rennes, 3-1. La météo, toujours du froid et un peu de pluie au menu de votre mercredi. 22h20 sur RTL, votre magazine de l'écho. On parlera d'aide aux personnes âgées, puis cinéma, avant, comme chaque soir, de retrouver Caroline Dublanche dès 22h30. Pour Parlons-nous plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Sans plus tarder, direction Tel Aviv, nous attend Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL. Bonsoir à vous, Julien.
Bonsoir à tous.
Les résultats tombent en ce moment et la première tendance donne donc vainqueur le grand rival de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire Benny Gantz ce soir, le général.
Oui, en tête, Benny Gantz, 37 sièges, score très très élevé hein, pour un parti qui n'a que quelques mois d'existence. Benjamin Netanyahou nettement au-dessus des prévisions, 33 sièges pour l'actuel Premier ministre. Il arrive deuxième, mais d'autres chaînes de télévision mettent les deux candidats à égalité et on attend encore les résultats des soldats, des prisonniers et des personnes hospitalisées. La nuit va donc être longue. Ce qui est sûr et certain, Christophe, c'est que 1. La gauche s'écroule, un parti travailliste qui n'a jamais été aussi bas, et que 2. Netanyahou réalise un score historiquement haut. Ce soir, situation ubuesque, donc les deux hommes, Netanyahou et Gantz, revendiquent la victoire. C'est la guerre des nerfs entre les deux camps. Les commentateurs annoncent une soirée, je cite, longue et dramatique. À la dernière élection, les résultats du soir n'étaient pas du tout les mêmes que les résultats finaux. Ce ne sont à ce stade donc que des projections et qui évolueront dans la nuit. Ce que l'on sait et ce qu'on peut dire en l'état, c'est qu'on ne peut tirer absolument aucune conclusion.
En vous écoutant, on se dit que tout est clair, tout commence maintenant.
Oui, vous avez tout compris, c'est le président de la République qui décide à qui il donne mandat de créer une coalition, mais dans l'état actuel des chiffres, aucune des deux listes n'est en mesure de former un gouvernement parce qu'il faut trouver des alliés. Le système israélien est ainsi fait. Le seul but pour le gagnant, c'est d'obtenir 61 sièges. Il y en a 120 à la Knesset, la moitié plus 1, 61. Si Gantz, théoriquement en tête ce soir avec 37 sièges, n'arrive pas dans la semaine à trouver 24 sièges qui lui manquent en nouant des alliances avec les autres partis, eh bien, sa chance sera passée. Le président de la République demandera alors à celui qui est arrivé potentiellement deuxième, Netanyahou, de composer un gouvernement. Et c'est une hypothèse sérieuse. C'est arrivé une fois en 2009. La candidate en tête n'a pas fédéré autour d'elle. Les tractations commencent à peine. On entre maintenant dans les jeux d'influence. La politique politicienne, je te donne un poste, tu me soutiens. Et ça peut durer plusieurs jours.
Peut-être pour être complet ce soir, Julien Fautra, vous êtes sur place hein, pour RTL depuis quelques jours. On s'est aperçu qu'il y avait un climat assez délétère hein, autour de cette élection. Est-ce que ça va laisser finalement toute cette violence, tout ce climat, est-ce que ça va laisser des traces durables même dans la société israélienne?
Oui, tout le monde indique que oui. La partie des gens sont effectivement déçus, notamment dans la jeunesse. La participation est d'ailleurs inférieure à la participation globale à celle de la dernière élection en 2015. Les opposants se sont mutuellement accusés de traîtres, de faibles. Encore cet après-midi, Benjamin Netanyahou a posté une vidéo. Si vous ne sortez pas voter, nous allons perdre et il y aura un parlement de gauchistes. Insulte suprême dans la bouche du Premier ministre. Une société donc qui sort de ce scrutin divisé. Dernier signe, les Arabes israéliens à Jérusalem-Est, visés par les attaques de l'extrême droite, se sont massivement abstenus.
Merci pour toutes ces explications et pour l'instant donc ce coup d'à-coude mais qui donne quand même Gantz en tête devant Netanyahou. On en saura peut-être un peu plus, hein, même d'ici 23h évidemment sur RTL. Merci encore Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL en Israël. Toujours à l'étranger, en Algérie, depuis le début des manifestations populaires, pour la première fois, les forces de l'ordre ont fait usage ce soir de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, en grande partie des étudiants dans les rues d'Alger. Et puis, en ce moment même, le président par intérim algérien Abdelkader Ben Salah est en train de s'exprimer devant la télévision. Il promet, en tant que président par intérim, un scrutin présidentiel transparent et régulier dans son discours qui est en ce moment retransmis à la télévision nationale. Et il vient de s'engager à organiser le scrutin sous 90 jours, comme prévu par la Constitution. En déplacement à Berlin puis à Paris, la première ministre britannique Theresa May a plaidé aujourd'hui pour obtenir de ses partenaires européens un tout nouveau report du Brexit lors demain du sommet extraordinaire de l'Union européenne à Bruxelles. Le président du Conseil européen Donald Tusk s'est déjà montré assez ouvert à cette requête en plaidant auprès des 27 pour un report flexible pouvant aller même jusqu'à un an maximum pour éviter bien sûr le risque d'un divorce sans accord. Du côté de l'Allemagne, on juge pour l'instant que cette extension de délai est raisonnable et même possible quand Emmanuel Macron, qui a reçu Angela Merkel, mais sans aucune déclaration ce soir à Paris, il n'est pas fermé à construire une autre solution pour que le no deal, évidemment, ne soit pas d'actualité, mais avec certaines limites et pas à tout prix. C'est ce qu'a ajouté la présidente française dans un communiqué. En tout cas, il est plus intransigeant qu'Angela Merkel, Emmanuel Macron, ce soir devant ce Brexit et cette demande de rapport. Et on termine avec les États-Unis, cette page étrangère, avec Washington qui envisage de taxer Airbus et d'autres grands produits américains en signe, tout simplement, de mécontentement contre les subventions européennes allouées, accordées aux constructeurs aéronautiques.
RTL Grand Soir. Avec Christophe Paco.
On en vient à ce terrible drame familial dans le Var, dans la ville de Vidauban, samedi soir dernier. Une femme a été assassinée par son mari, déjà condamné, qui avait, Hugo Hamelin, de surcroît, interdiction de l'approcher.
Oui, effectivement, parce que ce soir-là, samedi, une nouvelle altercation éclate entre Dalila et son mari. Il est hors de lui, armé, et elle court se réfugier dans la maison de ses voisins, où Pierre habite avec ses parents.
Elle est venue chez nous paniquer en disant que son mari l'avait agressé au couteau et qu'il fallait appeler tout de suite la gendarmerie. En quelque sorte, elle s'est réfugiée chez nous pour éviter son mari. La gendarmerie est venue, ils l'ont pris en charge, ils l'ont laissé chez elle. Le mari n'était plus à la maison, donc ma mère lui a conseillé d'aller chez son fils à Toulon et au final, je crois qu'elle préparait ses affaires, elle allait partir au moment où le mari est revenu.
Le mari tire plusieurs coups de pistolet, ne laisse aucune chance à sa femme. À ce moment-là, les gendarmes sont déjà repartis. Est-ce qu'il savait que cet infirmier libéral avait été placé sous contrôle judiciaire il y a un peu plus d'une semaine déjà pour violence conjugale? C'est l'une des facettes que l'enquête devra éclaircir. Le procureur de Draguignan, Patrice Cambérou.
Et il y a 10 jours, quand même, on sanctionne son acte de violence par un placement sous contrôle judiciaire avec une interdiction de se rendre au domicile. Sauf pour raison professionnelle, il est revenu vraisemblablement avec une arme qu'il est allé chercher dans le but de commettre l'irréparable, c'est-à-dire de tirer sur son épouse.
Cette demi-interdiction de regagner le domicile s'est finalement révélée inefficace. Dalila était mère de 3 enfants. Son mari devrait être mis en examen demain pour assassinat.
Hugo Hamelin, Vidauban, dans le Var pour RTL. Le gérant du restaurant parisien Casa Nostra, visé, on s'en souvient, par les attentats du 13 novembre 2015, a été condamné à Paris ce soir à 2 ans de prison, dont un avec sursis, pour s'être fait passer pour une victime de ces attaques afin de percevoir des indemnisations. Le restaurateur, immédiatement écroué, avait déjà été condamné, on s'en souvient, pour avoir divulgué une vidéo de l'attaque de son restaurant. Jugé également ce soir à Paris dans un autre dossier, Serge Dieujuste, qui a reconnu lui être une fausse victime du 13 novembre. Il a été condamné, Serge Dieujuste, à la même peine et a également été arrêté à l'issue de son audience. Après la synthèse faite aux Français par le Premier ministre hier et la prise en compte de l'exaspération fiscale de la population, Édouard Philippe a développé devant les députés cet après-midi évidemment les conclusions de ce grand débat et appuyé sur le rôle tout nouveau du service public.
Notre service public se transforme, de plus en plus de services sont accessibles le soir, à distance, et c'est très bien ainsi. Mais le service public, ça n'est pas que du clic. Soyez assurés que dans les choix que nous aurons à faire, il s'agit de remettre du service public, des services publics, et donc des fonctionnaires sur le terrain, en leur donnant les moyens d'agir et de décider localement.
Et toujours à l'Assemblée, le chef de file des Républicains, Christian Jacob, pour sa part, n'y est pas allé de main morte, et non plus par 4 chemins, pour critiquer ces 2 longs mois de discussion.
Pour tenter de sauver ce qu'il est encore possible de sauver, le président a souhaité organiser un grand débat avec les Français, faisant mine d'oublier que son élection vient d'avoir lieu. En vérité, le contrat qui le lie aux Français, Celui de son élection est un contrat qui est totalement déchiré aujourd'hui. Ça n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait en réalité besoin, mais ce serait d'une nouvelle élection. Simplement parce qu'en démocratie, l'élection est le seul juge de paix pour s'assurer de la légitimité d'un gouvernement.
Propos choisis et recueillis à l'Assemblée nationale par Olivier Bost, service politique d'RTL. Et puis c'est plutôt rare, droite et gauche unifiées pour plaider aujourd'hui contre la privatisation de ADP des aéroports de Paris. Ils ont lancé en tout cas ensemble un référendum d'initiative partagée appelé communément le RIP.
RTL Grand Soir.
L'économie et la croissance mondiale, qui devrait être de 3,3% cette année, en baisse de 0,2 points comparé aux toutes dernières estimations du début de cette année. Malgré l'impact des gilets jaunes, notre pays résiste avec une croissance qui avoisinerait les 1,3%. C'est même un peu mieux que l'Allemagne. Invité d'RTL Soir à 18h, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a estimé que les mesures d'Emmanuel Macron avaient amélioré la compétitivité de notre pays.
Il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre et qui ont amélioré la compétitivité française. On le voit très clairement. Quand on regarde le volume des investissements directs étrangers dans les différents pays du monde, on s'aperçoit que la France est actuellement en mesure de plutôt bien attirer les investisseurs étrangers.
Donc vous encouragez Emmanuel Macron à poursuivre ses réformes ?
Ah ben pour que la France soit plus compétitive, plus productive, plus moderne, qu'elle dispose de plus de moyens pour à la fois soutenir la croissance, stabiliser, voire réduire sa dette et faire les politiques sociales qui sont envisagées pour ramener le maximum de gens vers l'emploi, oui, bien sûr.
Christine Lagarde, invitée exceptionnelle de Marc-Olivier Fogiel ce soir sur la première radio de France. Depuis l'instauration de l'impôt à la source, on s'achemine sereinement vers la fin de la traditionnelle déclaration de revenus. Et ce, Christophe Pondio, pour une bonne partie des 8 millions de contribuables. Finalement, c'est la dernière, Christophe.
Oui, dernière pour un contribuable sur 5, à condition que vos revenus soient stables, même salaire, même pension, même placement financier. Toutes ces informations qui figurent déjà sur votre déclaration pré-remplie. Par ailleurs, les 3 millions de particuliers qui emploient des salariés à domicile, garde d'enfants ou tâches ménagères pourront aussi être concernés. Ce sera une nouveauté l'an prochain. Bref, pour tous ces contribuables, il suffira de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur sa déclaration 2020 et sa validation sera tacite. En revanche, la fin de la déclaration sera plus compliquée pour les artisans, commerçants, agriculteurs ou professions libérales dont les revenus varient. Bercy travaille sur le sujet avec davantage de données échangées sans devenir Big Brother, assure le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Non, il n'y a aucun risque. Bercy est une administration qui garde le secret. On ne saura pas automatiquement quand vous vous mariez, quand vous divorcez, quand vous adoptez des enfants ou quand faites des dons.
Et donc, en cas de changement de situation, il faudra toujours le signaler. Comprenez, la déclaration d'impôt est presque morte. Vive la déclaration. Oups, pardon, vive la simplification. Préfère dire merci.
Merci beaucoup, Christophe Ponzio, service économie et sociale de la Première Radio de France. 22h12, et des enseignants accusés d'avoir glissé des tracts contre le ministre de l'Éducation dans les carnets de correspondance des élèves pour dénoncer les réformes du moment. C'est en tout cas l'enquête RTL du jour réalisée par Marie Mollet.
Oui, il s'agit d'une feuille A4 collée dans le carnet de liaison et qui accable la loi Blanquer. Un enseignement au rabais, les élèves méritent mieux, voilà ce qu'on peut y lire. Et pour la députée en marche Olga Givernet, le cahier de correspondance de ses filles n'est pas le lieu pour tracter.
Lorsqu'il y a un tract qui arrive comme ça dans le cartable de nos enfants, c'est une communication institutionnelle. Donc il y a voie de vérité dans ce qui est mis. Pouvoir y voir des revendications politiques, là j'ai eu une petite surprise et je trouve que certains enseignants qui ont fait cela bafouent leur devoir de neutralité.
Alors sur le document, pas de logo de syndicat. Sauf que nous avons retrouvé ce même tract, mot pour mot, sur plusieurs sites du syndicat SNUIPPFCU, premier chez les instituteurs, avec parfois même une mention qui invite à glisser le tract dans le carnet de liaison des élèves. C'est le cas sur le site du SNUIPP Hauts-de-Seine. Elisa Raducanu en fait partie.
Ça ne me pose pas de soucis, c'est une information que les enseignants donnent aux parents d'élèves. Alors effectivement, c'est un point de vue sur l'actualité. Presque, je trouve un peu étonnant, c'est que ça fait des années que les informations sont données de cette façon-là.
Sauf que le code de l'éducation précise bien que les élèves ne peuvent jamais être un intermédiaire pour diffuser un point de vue politique, et ce d'autant plus dans les classes de primaire.
Marie Mollet pour RTL. Attention les yeux, et pas que. Les académies de sciences, de médecine et de technologie appellent à nouveau à la plus grande prudence, à la plus grande vigilance face à une durée sans cesse grandissante. Près de 4 heures devant les écrans de toute taille, votre téléphone portable, les tablettes, les consoles, avec au final peut-être ce qu'on pourrait appeler un slogan bien familial, parents, enfants, même combat, vigilance, vigilance, évidemment, même combat pour les parents et les enfants devant ces écrans. Durififi, patrimoniale dans la charmante commune de Beynac en Dordogne, où la justice a décidé aujourd'hui d'annuler le projet de déviation routière pour contourner cette merveille de site médiéval, réclamant même sur le champ la démolition du chantier. Satisfaction ce soir de Stéphane Bern, monsieur patrimoine sur RTL, aux côtés d'Agathe Landais.
C'est vraiment une sorte d'égo de certains élus. J'espère enfin que le président du département et ses affidés vont respecter la loi républicaine. Je vois qu'on reçoit des soutiens de toute la France. Tous les amoureux du patrimoine, dont je suis évidemment, sont heureux de voir qu'on va arrêter de bétonner une vallée qui, encore une fois, est protégée par l'UNESCO. Sinon, la protection de l'UNESCO ne sert à rien si on détruit tout ce patrimoine. Et j'espère qu'il remettra la vallée de la Dordogne en état, parce qu'en attendant, il y a comme un site gallo-romain qui a été détruit et enfoui sous la voie de contournement.
Et la réponse cinglante n'a pas tardé de la part de Germinal Perrault, président du conseil départemental de la Dordogne.
Le village de Beynac, qui est un des plus beaux villages de France, va continuer à être pollué par des milliers de véhicules chaque jour. Stéphane Bern n'est jamais venu dans notre région. Il se sert de sa médiatisation pour se payer un élu local. C'est tout à fait incorrect de sa part.
Germinal Perrault, son sentiment recueilli par Philippe Demaria. Le football, quart de finale aller de la Ligue des Champions, sans club français, on le rappelle quand même. Liverpool mène pour l'instant en deuxième période 2-0 face à Porto. Tottenham-Chelsea, c'est du 0-0. Puis en match en retard de Ligue 1, Nîmes a battu Rennes 3-1.